feu.
Tout femme,
le magazine des femmes,
mais pas que.
Sur Couleur FM 97.1 avec Véronique
et Valérie.
Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber.
Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Véronique.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, sur Couleur FM, nous vous proposons une nouvelle émission mensuelle. Elle est intitulée Tout feu, tout femme. Elle sera diffusée les semaines paires sur notre antenne, c'est-à-dire le mardi à 21h, le samedi à 20h et le dimanche à 11h. Vous aurez également la possibilité de les écouter sur notre site internet que vous connaissez tous bien sûr, www.couleurfm.com, à la rubrique émission Tout feu, tout femme. Alors cette émission, elle est dédiée aux femmes, bien sûr sans aucun féminisme primaire, l'idée étant simplement de parler de la femme, de ses problèmes dans notre société telle qu'elle est conçue, et d'accueillir les invités qui seront capables de répondre à un certain nombre de problématiques que rencontre justement la femme dans sa vie d'aujourd'hui, et puis aussi de débattre aussi sur ces différents sujets.
Alors en effet, depuis des générations, des femmes mènent le combat de l'égalité entre les femmes et les hommes, et nous pouvons les remercier des avancées qui ont été obtenues dans ce domaine. Il y eut Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Simone Veil, Françoise Giroud, pour ne citer qu'elles. Cependant, nous sommes encore loin du compte et tout le monde le sait. Ici, sur Couleur FM, nous ferons en sorte que la quinzaine de l'égalité organisée par la région Rhône-Alpes dure toute l'année. Par des sujets très variés, nous tenterons d'apporter des réponses, des éclaircissements, des réflexions et nous donnerons la parole aux femmes. Elles pourront ainsi exposer les difficultés qu'elles rencontrent dans leur quotidien, dans ce monde où tout bascule très vite. Mais nous aborderons tous ces sujets avec humour et sérieux à la fois. Nous inviterons aussi bien des femmes que des hommes qui viendront étayer nos différents sujets.
Oui, parce que si nous parlons d'égalité femmes-hommes, de droits de la femme et du respect qui lui est dû dans cette société, il n'est quand même pas question de dire que la femme peut vivre sans l'homme, bien évidemment. Nous avons besoin de vous, messieurs. Cependant, l'un comme l'autre peuvent vivre en harmonie dans une égalité réelle. Alors nous choisirons des chansons qui, tout au long de ces siècles, ont contribué à faire intégrer certaines idées dans notre société. Et il faut dire que la chanson féministe a été un bon moyen d'expression et un outil de lutte au même titre que les manifestations dans la rue et les meetings pour tenter d'arriver à une égalité femmes-hommes dans cette société. Elle a été chantée par des femmes, mais aussi par des hommes. Celle-ci a contribué au passage de la loi Neuwirth le 28 décembre 1967 qui légalise la contraception, ainsi que la loi Veil en 1974 qui, elle, autorise l'avortement. Déjà proclamée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'égalité des sexes est réaffirmée par la Convention internationale de 1979 sur l'abolition de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette convention met fin à cette période de lutte intensive des femmes, leur objectif étant atteint, et ce, après, tenez-vous bien, 31 ans de bataille.
Et oui, il est bon de rappeler quelques dates où les droits des femmes ont changé. Nous partirons du début du XXe siècle pour arriver au XXIe siècle avec notamment la loi Vallaud-Belkacem. Vous constaterez le chemin parcouru, mais il reste encore tant à faire en France, mais surtout dans beaucoup de pays dans le monde où les droits de la femme sont encore bafoués, voire inexistants. Mais pour l'instant, restons en France. En 1907, la loi accorde aux femmes mariées la libre disposition de leur salaire. En 1909, c'est l'institution d'un congé de maternité de 8 semaines, sans rupture de contrat de travail, mais sans traitement qui fait son apparition.
Et en 1920, la femme, elle, peut adhérer à un syndicat sans l'autorisation de son mari. En 1924, les programmes de l'enseignement secondaire ainsi que le baccalauréat deviennent identiques pour les filles et les garçons.
En 1928, c'est le congé de maternité de 2 mois à plein traitement pour toutes les salariées de la fonction publique. En 1936, ce sont les premières femmes qui deviennent sous-secrétaires d'État.
1938, suppression de l'incapacité civile des femmes. 21 avril 44, c'est l'ordonnance accordant le droit de vote et d'éligibilité aux femmes qui apparaît grâce à la marche des femmes françaises vers l'égalité. C'est important de le dire, ce n'est pas si vieux que cela, 1944.
Elles exercent alors pour la première fois ce droit le 20 avril 1945 pour les élections municipales et le 21 octobre 1945 pour une élection nationale. Par rapport à d'autres pays d'Europe et aux États-Unis, les femmes françaises obtiennent le droit de vote tardivement. En Grande-Bretagne et en Allemagne, elles l'ont eu en 1918, aux États-Unis en 1920 et en Espagne en 1931.
En effet, Véronique, la place des femmes dans la démocratie française est conditionnée par un double héritage politique et social. Dans l'imaginaire politique républicain, la femme demeure sous l'influence du prêtre. Ainsi, Le principe du droit de vote des femmes est rejeté plusieurs fois par le Sénat entre 1919 et 1935. La frilosité des parlementaires explique que le Front populaire, tout en ouvrant symboliquement son gouvernement aux femmes, par exemple à Suzanne Lacor qui était sous-secrétaire d'État à la protection de l'enfance, ou bien Irène Joliot-Curie qui, elle, était sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique, Cécile Brunswick, sous-secrétaire d'État à l'éducation nationale, n'est pas jugé nécessaire de faire une nouvelle tentative.
Cette faiblesse sur le plan politique est d'autant plus frappante qu'on trouve de plus en plus de femmes sur le marché du travail, à la différence de l'Angleterre, par exemple, pays où les femmes votent depuis 1918. Le travail féminin est un phénomène massif en France, 35% de la population active contre 28% en Angleterre durant l'entre-deux-guerres.
Et en 1946, c'est le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines qui est désormais inscrit dans le préambule de la Constitution. L'après-guerre s'accompagne de profonds changements qui modifient la place des femmes dans les sociétés européennes. Et l'explosion du travail salarié et la tertiarisation de l'économie concernent en premier lieu les femmes.
En France, à cette époque, la moitié des femmes mariées exercent un travail salarié. Cette particularité s'explique par le poids de l'activité agricole qui représente près de la moitié du travail féminin. Or, à la différence du travail industriel, où les ouvriers s'organisent collectivement, l'activité agricole des femmes les laisse trop souvent isolées pour favoriser l'émergence de fortes revendications. Le nombre des femmes travaillant dans l'agriculture et l'artisanat passe alors de 41% en 1946 à 8,6% en 1975.
Et oui, les besoins de main-d'œuvre massif explique l'extension du travail des femmes mariées. Dans le même temps, cette mutation du travail féminin est rendue possible par une scolarisation accrue.
1947, c'est la première femme nommée ministre, ayant le titre de ministre plein, et Madame Germaine Poinçon-Chapuis en 1947, du 24 novembre 47 au 19 juillet 1948.
C'est court.
Elle fut ministre de la Santé de la Population et restera célèbre pour sa loi sur le financement de l'enseignement privé qu'elle découvrira sur son bureau après qu'elle ait été votée avec sa signature. Et le jour, tenez-vous bien, de la fête des mères. Entre les années 50 et 60, les femmes investissent le marché du travail et dans les années 60-70, c'est le renouveau du féminisme qui se profile.
Et cette résistance au changement de la société patriarcale va contribuer à façonner parmi les femmes de nouvelles formes d'action politique. L'émergence du mouvement féministe à la fin des années 60 marque très nettement la naissance de nouvelles pratiques, en raison de la passivité des autorités politiques et sociales.
En 1964, pour la première fois, le nombre des bachelières est supérieur à celui des bacheliers. Tant pis, messieurs.
Désolée.
Toutefois, l'accès massif des femmes, tant à l'enseignement qu'au monde du travail, ne signifie pas l'harmonisation des conditions. À l'école, l'accès des femmes aux diplômes se traduit souvent par leur dévalorisation, tandis que se mettent en place des filières spécialisées.
Et oui, dans le monde du travail, eh bien, les femmes occupent souvent des postes de moindre responsabilité. Ça n'a pas beaucoup évolué. Et l'on observe le maintien d'une forte discrimination salariale. Le retour des difficultés économiques fait que les femmes sont les principales victimes du travail précaire et du travail à temps partiel, parfois présentées comme une chance pour l'épanouissement de la vie familiale. Les choses reviennent finalement dans le temps, hein, Véronique.
Alors en 1965, c'est la loi de réforme des régimes matrimoniaux qui autorise les femmes à exercer une profession sans l'autorisation. Ce n'est pas faux, marital, et elles ont le droit de gérer leurs biens propres.
Les femmes ont le droit de penser.
On hallucine. 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception. Les féministes mettent sur pied leurs propres organismes pour assister les femmes battues ou pour promouvoir la contraception. N'oublions pas de rappeler que l'ONU a décrété Journée nationale contre la violence faite aux femmes le 25 novembre.
Ces pratiques revendicatives autonomes révèlent parfois l'influence des théories séparatistes du féminisme américain, lequel insiste sur les nécessités d'une rupture dans tous les domaines, sur l'exaltation d'une différence radicale entre les sexes et sur la mise en place d'une contre-société féminine. Alors au bout du compte, ces nouvelles formes de mobilisation aboutissent à la levée des derniers obstacles juridiques et à l'égalité entre les sexes, ainsi qu'à l'égalisation de l'avortement. Allez, on va faire une petite pause musicale, si vous le voulez bien, sur Couleur FM 97.1 et nous allons écouter cette merveilleuse chanson écrite par Jean Ferrat et qui lui a été suggérée par le grand poète Louis Aragon, « La femme et l'avenir de l'homme ».
Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
C'était Jean Ferrat, le titre « La femme est l'avenir de l'homme ». Après l'émancipation politique et sociale, l'émancipation sexuelle apparaît comme l'ultime et décisif combat contre l'assujettissement social et culturel des femmes. Le combat pour le droit à l'avortement, dont la pratique est sévèrement réprimée depuis une loi de 1920, est fortement médiatisé au début des années 70.
Merci Madame Veil. 1970, le congé maternité est indemnisé à 90% par l'assurance maternité. Il y a la création d'un congé parental d'éducation et suppression de la notion de chef de famille, c'est très important ça. Le 5 avril 71, le magazine Le Nouvel Observateur fait paraître une pétition qu'il appellera le manifeste des 343. Où 343 femmes déclarent avoir subi un avortement, s'exposant ainsi à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement, parce que c'était comme ça encore à cette époque-là. On était passible de prison.
Et c'est pas si loin.
C'est pas si loin.
En 1972, c'est le procès de Bobigny où une jeune fille est jugée pour avoir avorté clandestinement à la suite d'un viol. Cela donne lieu à des manifestations de soutien. À la suite de débats houleux, l'avortement est finalement légalisé par l'Assemblée nationale le 20 décembre pour une période probatoire de 5 ans. terme au bout duquel il sera définitivement autorisé en 1979. Ce n'est pas si loin que ça. Ces différents projets, loin de faire l'unanimité, y compris chez les politiciens, suscitent alors des polémiques en raison de l'apparition de groupes anti-IVG qui, par la violence, tentent d'empêcher l'application de la loi. Alors, pour rebondir sur cette triste affaire de 1972, je vous propose de faire une petite pause musicale. Alors, nous avons choisi les Tite Nacelles. Le titre, c'est La chanson crie. C'est une chanson qui a été écrite par Georges Brassens et donc reprise par le groupe Les Tite Nacelles. Alors, Les Tite Nacelles, c'est qui? Eh bien, c'est un duo atypique qui manie habilement l'art de l'écriture. Les Tite Nacelles, ils nous invitent souvent dans leur univers un petit peu farfelu, de brocante. Le binôme évolue avec une ribambelle d'instruments, de petites marionnettes et autres petites lampes et autres petits objets. Ils oscillent entre légèreté et gravité. Les deux complices mettent en scène des personnages dont ils brossent souvent des portraits empreints d'amour, d'humour et de noblesse. Ils sont tour à tour auteurs, compositeurs et avec une fraîcheur et une causticité qu'on leur connaît, ils ont ce don particulier qui rapproche d'emblée et fonctionne auprès du public. Ils ont fêté leurs 10 ans de carrière avec l'album Pêle-mêle en 2009. Le duo n'a rien perdu de sa fraîcheur et de sa spontanéité. Ils ont sorti un album en 2013 qui s'appelle Soyons fous. Mais là, pour le moment, on écoute tout de suite Chanson Crie, une chanson, quand vous écouterez les paroles, voilà, vous comprendrez.
Et ils sont adorables, il faut le dire. Ils sont extraordinaires.
Voilà. Et vous êtes sur Couleur FM dans l'émission Tout feu, tout flamme. Et je suis en compagnie de Valérie.
Je veux que ma chanson soit comme un cri d'alarme entre un air à la mode et un chanteur de charme. Même si je ne chante pas assez fort, qu'on veuille m'écouter 3 minutes encore. Lorsqu'on entend parler des femmes que l'on viole, pour beaucoup d'entre nous, ça reste des paroles. On discute, on s'indigne, on ferme le journal, puis on finit par trouver ça presque normal.
Hier j'ai rencontré une de ces victimes. Pour la police c'est affaire de routine. Et pour les autres ce n'est guère qu'une histoire. Moi j'ai vu la détresse au fond de son regard.
J'ai lavé son corps couvert de sperme et de sang. L'individu était presque un adolescent. Très vite il a fait ça sans amour ni plaisir. Il paraît qu'il a pleuré avant de s'enfuir. Mon Dieu, qu'avons-nous fait pour en arriver là? Que faut-il faire pour arrêter tout cela? Ma tête se révolte et mon cœur est meurtri.
Et j'ai eu mal pour elle.
Et j'ai honte pour lui. Mais qui d'entre nous n'a jamais violé quelqu'un? Pour ne parler que de ces petits viols mesquins qui font partie de notre vie de tous les jours et abreuvent de l'âme notre soif d'amour. La puissance, l'argent, la force et le mépris, l'autorité du père et celle du mari, la rigueur imbécile des fauteurs de l'ordre qui créent les enragés qu'on empêche de mordre. Car ce sont nos enfants que l'on appelle la pègre, gauchistes, blousons noirs, drogués et autres nègres. Tous ceux qui pour survivre cherchent à rêver, ceux qui cherchent la plage au-dessous des pavés. Et si je viens chanter à la télévision, dans le cadre établi de la consommation, avec l'approbation du prince et de la cour, ne va pas croire que c'est pour faire un discours. Ce n'est pas non plus pour te convaincre ou te plaire, ou chanter des idées qui sont déjà dans l'air, mais c'est
faisant simplement mon métier de chanteur. Je dis que le bateau prend l'eau de tous côtés, qu'il est temps qu'on essaye de le colmater. Victime ou criminel, les deux sont concernés. Et s'il y a un coupable, on est tous condamnés.
C'était donc Chanson Cri, interprétée par les Tites Nacelles, une reprise de Georges Moustaki.
Et puis les femmes, eh bien les femmes, elles partent vers la conquête de l'égalité civile. En France, en matière de droits de la femme, il faut attendre la fin des années 70 pour voir disparaître les dernières discriminations d'ordre juridique, alors même que l'égalité reste encore largement fictive dans de nombreux domaines. L'héritage du code civil napoléonien qui instaure la subordination privée de la femme en est responsable. Et en 1970, la notion d'autorité parentale remplace celle de chef de famille.
En 1972, le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est inscrit dans la loi. Mais alors, on a encore mis beaucoup de temps avant d'arriver à que ce soit réel.
C'est pas gagné.
En 1973, la mère peut transmettre sa nationalité à son enfant légitime ou naturel.
Et en 1975, eh bien, c'est la dépénalisation de l'adultère. Oui, oui, vous avez bien entendu, la dépénalisation de l'adultère et l'instauration du divorce par consentement mutuel. Une grande avancée. Mais aussi l'obligation de la mixité scolaire, ça aussi c'était très important de le faire passer. La loi Veil autorise l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse, pour une période probatoire de 5 ans.
En 1979, une nouvelle loi sur l'IVG rend définitive les dispositions de la loi de 1975. En 1980, l'émancipation de la femme a disposé librement de son corps.
C'est
là
gentil.
Aussi, on hallucine. À partir des années 80, c'est autour de la notion de parité et de genre qui se concentre l'action des féministes françaises. Comme les inégalités perdurent en particulier dans le domaine politique, l'idée d'une incitation législative fait son chemin.
Oui, elle fait son chemin, mais elle se heurte cependant à de nombreux obstacles. Au nom de quoi ? Eh bien, de l'égalité devant le suffrage. Le Conseil constitutionnel a ainsi rejeté une loi de 1982 qui prévoyait d'instaurer dans les villes de plus de 3500 habitants un quota minimum de femmes sur les listes de candidats, ou plus exactement un maximum de 75% du même sexe. Cherchez l'erreur.
Et oui, et depuis, l'idée du principe de la parité a progressé et trouve dans la loi 2000 une première tentative d'institutionnalisation. Et le débat sur la parité rencontre le débat actuel sur la notion du genre.
Alors, pour simplifier, on peut distinguer les universalistes qui considèrent que l'être humain est universel et qu'il ne faut pas différencier les femmes des hommes, opposés à l'instauration de quotas féminins, et puis les différentialistes qui, eux, considèrent qu'il existe une spécificité féminine qui doit être prise en compte, favorable à la loi sur la parité.
En 1981, la loi sur le viol redéfinit l'agression sexuelle. En 1982, l'IVG est enfin remboursée par la Sécurité sociale.
Et en 1983, la loi Roudy sur l'égalité professionnelle apparaît. En 1985, le congé d'éducation parentale est ouvert à l'un ou l'autre des parents salariés. Loi relative à l'égalité des époux dans la gestion des biens de la famille et des enfants. Et d'ailleurs, le sujet revient encore actuellement.
En 1987, apparaît la loi qui institue l'autorité parentale conjointe pour les enfants naturels ou de parents divorcés. Et ça, peu de gens le savent. Mmh. 1990, autorisation de l'utilisation du RU486, technique médicamenteuse de l'IVG. C'est-à-dire, vous prenez un petit cachet dès le moment où vous avez un doute sur le fait d'avoir été mal protégé.
La pilule du lendemain.
La pilule du lendemain,
comme on l'appelle aujourd'hui.
Voilà, comme on l'appelle plus communément. La Cour de cassation reconnaît le viol entre époux.
Ça, c'est très nouveau aussi. En 1992, la loi sanctionnant le harcèlement sexuel dans les relations de travail est votée. En 1993, la loi dépénalise l'auto-avortement et crée le délit d'entrave à l'IVG.
En 1995, c'est la création de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes. En décembre 1999, l'ONU a proclamé le 25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
Très important.
1999, c'est la modification des articles 3 et 4 de la Constitution pour introduire l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives.
C'est pas gagné. En 2000, loi de mise en œuvre sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, loi relative à la contraception d'urgence qui ne la soumet plus à une prescription obligatoire. Et en 2001, la loi Génisson sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes vise à développer le dialogue social sur ce sujet dans la branche et l'entreprise. Loi qui allonge le délai légal au recours de l'IVG, c'est-à-dire elle passe de 10 semaines à 12 semaines. Et la loi relative à la lutte contre les discrimination à l'emploi, qui précise notamment le régime juridique de la preuve. Eh bien, nous allons faire une petite pause musicale avec Jiedré, qui va nous chanter Pisser debout. C'est une chanteuse qui est décrite comme politiquement incorrecte et crue. Elle est teintée d'humour noir. Les textes de Jiedré abordent les sujets comme la prostitution, la pédophilie. Ils contrastent avec son apparence innocente et ses costumes de scène enfantin. Jiedré estime que ses chansons ne sont pas provocantes. Elle dit retranscrire la réalité qui est, selon elle, souvent choquante. Sa chanson, nous l'écoutons sur Couleur FM 97.1.
Si j'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Suzanne Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi, aussi j'avais des couilles, j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout, j'aimerais pouvoir pisser debout. Être un homme, c'est beaucoup plus économique. À 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques. Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue, alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu. À 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau, alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille pour refaire sa vie avec une jeune bimbo. C'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout, j'aimerais pouvoir pisser debout. Plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures. Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de col enfilé, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginales. Comme Mylène Farmer, j'ai posé cette question. J'ai dit, dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça. Vulgaire comme un mec, bête comme une fille, je suis les deux à la fois. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout, j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Moi si j'étais un homme, je serais la capitaine d'un bateau, non, j'irais plutôt me taper des buts à porte-maillot. Je remplacerais la salade sans sauce par une choucroute saucisse. J'aurais plus l'obsession de la taille 36. Je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter en meuble Ikea. Je serais plus une traînée et deviendrais un don Juan. Oh si j'étais un homme, si seulement, si seulement je pouvais pisser debout, pisser debout, j'aimerais tellement pisser debout, pisser debout.
C'était Diedrich, le titre Pisser debout. On va continuer avec une autre chanson cette fois-ci. On retrouve Amélie Les Crayons, le titre Les Pissotières, et cet extrait de son album La Porte-Plume.
Quand tu vas aux toilettes, est-ce que tu peux lever la lunette? Et si possible, viser le trou, histoire qu'il n'y en ait pas de partout. La petite brosse à côté, quel mystérieux objet, tu ne dois pas savoir ce que c'est, tu ne l'as peut-être jamais remarqué. Tu as aussi le droit de tirer ce qu'on appelle la chasse. Parce que je t'assure qu'après toi, il y a toujours une fille qui passe. Tu peux aussi te laver les mains si tu dois saluer quelqu'un, peut-être éteindre la lumière si tu sais faire. Quand tu pars des toilettes, est-ce que tu peux baisser la lunette? Y en a marre des acrobaties, nous on voudrait juste s'asseoir. Bien sûr qu'on vous envie d'avoir qu'à baisser votre braguette, mais qu'est-ce que tu veux mon petit? La nature est ainsi faite. Quand tu vas aux toilettes, est-ce que tu peux lever la lunette? Ou bien ce que t'as qu'à faire, c'est de choisir les pissotières. Si par hasard il n'y en avait pas, il y a toujours un arbre quelque part qui attend dans la pluie, dans le froid, que tu marques ton territoire. Et pendant ce temps-là, nous restera les princesses de ces petits endroits où l'on viendra poser nos fesses. Enfin, on se laissera aller à rêver d'un monde meilleur où tout le monde s'aime, où c'est la paix, on baignera. Quand tu vas aux toilettes, tu veux me la lever cette lunette. La petite brosse à côté, je vais t'apprendre ce que c'est. Et puis tu vas brosser, brosser, jusqu'à ce que ce soit parfait. Et si tu le fais pas, je te la fais bouffer. Est-ce que c'est clair?
C'était Amélie Les Crayons, le titre Les Pissotières, extrait de son album La Porte-Plume. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 et on continue notre rétrospective des droits de la femme. En 2002, c'est la loi sur la transmission du patronyme qui autorise la transmission du nom de la mère ou du père ou des deux aux enfants. En 2004, c'est la loi relative au divorce, protection du conjoint victime de violence. Enfin,
et ça a mis du temps, mais tout vient à point quand on sait attendre, n'est-ce pas? En 2006, loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, loi aussi sur la prévention et la répression des violences au sein du couple, et en 2007, la loi sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Il faudra attendre le 27 mai 2008 qui porte adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations parmi ses motifs maternité, y compris congé maternité. Ce sera la modification de l'article 1er de la Constitution qui dispose désormais que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
On voit qu'il y a besoin de leur préciser chaque année un petit peu plus dans les lois.
Alors là, nous sautons en 2013 avec la loi Vallaud-Belkacem qui a été enfin adoptée. Alors, quelques grandes lignes de la loi Vallaud-Belkacem, parce que je ne vais pas toutes la détailler. Oui. Il s'agit de la parité dans toutes les sphères de la société, des stéréotypes sexistes, de l'égalité professionnelle, des violences faites aux femmes, de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle, le congé parental modifié qui a aussi fait couler beaucoup d'encre, le régime des pensions alimentaires, puisque maintenant il y aura des petites punitions pour les messieurs qui ou les dames qui ne payent pas. L'IVG, un droit protégé et renforcé. Il y a eu également là cette fois-ci c'est en 2014, le quatrième plan de lutte contre la violence faite aux femmes. C'est un plan triennal de 2014 à 2016 avec trois axes. Organiser l'action publique autour d'un principe d'action simple. Aucune violence déclarée ne doit rester sans réponse. Protéger les victimes. Et enfin, mobiliser l'ensemble de la société. Là aussi, c'est pas gagné. Aujourd'hui, l'idée d'une égalité de chance et de droit pour les deux sexes a fait son chemin, mais si dans la réalité, cette égalité est bien loin d'être acquise.
N'est-ce pas? Alors, On a fait une petite rétrospective quand même pour vous mettre un petit peu dans le bain, pour que ceux qui sont un petit peu plus jeunes puissent quand même prendre conscience de l'évolution des droits de la femme dans ce monde sur ces dernières années. Mais on a quand même quelques constats à ce jour à faire, hein, Véronique. On a des constats, notamment 80% des femmes entre 25 et 49 ans travaillent. Les femmes continuent d'effectuer 80% des tâches domestiques et familiales, malgré le fait qu'elle travaille. Et 80% des emplois à temps partiel sont assurés. Devinez par qui ? Allez, Véronique, je donne ta langue au chat ou tu sais répondre ?
Ah, je pense que tu vas me répondre.
Allez, par des femmes, bien sûr. Alors après ces chiffres consternants, hein, on va mettre une petite note d'optimiste dans tout ça. La région Rhône-Alpes, oui, notre région, a organisé pour la quatrième année la quinzaine pour l'égalité femmes-hommes en octobre 2014. C'est une région qui innove en la matière et elle propose de nombreux événements sur cette thématique tout au long de l'année. Donc soyez bien à l'écoute.
Alors ce que je vous propose avant d'écouter justement une interview que nous avons réalisée, on va faire une petite pause musicale et cette fois-ci c'est toi qui as choisi Véronique Sanson. Alors peux-tu nous présenter l'artiste qui n'est plus à présenter ?
Mais bien sûr, bien sûr. Véronique Sanson, qui, à la fin des années 60, avec Michel Berger, elle commence à travailler avec lui. Et il était, lui, directeur artistique chez Pathé Marconi. Et puis, il présente une maquette piano-voix à Bernard de Bosson, patron de Philippe Aki, filiale de Lavernaire en France. Et en 72, l'album Amoureuse, produit par Michel Berger, est très bien accueilli par les radios. Alors, dans ce premier disque, on trouve des titres toujours très diffusés 25 ans plus tard, tel Baïa ou Besoin de personne. Le titre de cette chanson a souvent provoqué un malentendu sur le caractère de Véronique Sanson. Elle s'est souvent expliquée auprès des journalistes pour échapper à l'image de femme indépendante que l'on voulait lui coller au début de sa carrière. Et puis, dans de nombreuses chansons d'amour, elle exprimera alors son sentimentalisme et sa difficulté à vivre seule. Cependant, l'écriture moderne de Véronique Sanson reflète une nouvelle mentalité féminine. Les paroles, besoin de personne pour le rencontrer, je l'ai compris toute seule, exprime le désir d'émancipation des femmes du début des années 70.
Alors on écoute tout de suite Véronique Sanson, Besoin de personne, c'est sur Couleur FM et c'est dans l'émission Tout feu, tout femme. Femme.
Quand je...
C'était Véronique Sanson, Besoin de personne. Comme nous l'avons évoqué précédemment, la région Rhône-Alpes innove et propose chaque année depuis 4 ans la quinzaine de l'égalité entre les hommes et les femmes. Couleur FM s'est associée à cette démarche et a organisé une conférence débat sur la péniche à Vienne au mois d'octobre. 4 femmes sont venues s'exprimer sur la thématique « L'avenir a-t-il un sexe ?»
Grande question.
Ce débat a été animé par Elisabeth Doutre, enseignante-chercheure à Grenoble 2, psychosociologue, spécialiste des questions du genre. Les invités étaient Michèle Sedrin, première adjointe au maire de Vienne et première vice-présidente de Rhône Pluriel, Thérèse Coron, maire de Condrieu et conseillère régionale, et Cécile Magherini, directrice régionale de la CNR, la Compagnie nationale du Rhône. Nous vous proposons d'écouter un extrait de cette conférence débat.
Alors, il faut savoir qu'il y a une loi qui vient d'être votée. La 11e loi d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes depuis 2001. 11 lois depuis 2001, donc ça fait presque une loi par an qui a été votée. C'est celle qu'on appelle la loi Vajot-Belkacem et donc qui a été votée à l'Assemblée le 28 janvier 2014 et qui n'a été ratifiée par le Sénat qu'au mois de septembre. Donc vous voyez, entre le moment où les députés ont voté cette loi, le moment où elle a été ratifiée pour mise en application avec les décrets d'application, c'est déjà passé 6 mois. Alors les décrets d'application, on ne connaît pas encore les dates, mais on présuppose que peut-être ça va prendre 6 mois. On aura peut-être de grandes chances pour que cette loi s'applique à partir du 1er janvier 2015. Alors cette loi devrait nous satisfaire, nous toutes, en tant que femmes, puisqu'elle a des objectifs, et l'objectif c'est d'assurer une égalité dans l'entreprise, dans l'organisation de travail, mais pas uniquement, et au sein des ménages. Donc, elle a un double objectif, cette loi, c'est de traiter, d'une part, la question de l'égalité professionnelle, mais d'essayer d'améliorer l'égalité dans les ménages pour pouvoir satisfaire à l'égalité professionnelle. Donc, ça, c'est le premier volet de la loi. Donc, dans le cadre de cette égalité au sein des ménages, elle a un objectif, c'est de construire une garantie contre les impayés des pensions alimentaires. On parlait des femmes qui ont décidé de partir, les familles monoparentales, de protéger les femmes contre toutes les violences, et notamment les violences de leur ex-conjoint, et enfin de généraliser la parité dans tous les domaines de la société. Alors, qu'est-ce qui a été ratifié par le Sénat au mois de septembre? Tout d'abord, concernant l'égalité professionnelle. Donc, assurer une égalité dans l'entreprise, il va être demandé un plan égalité obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 personnes qui voudront candidater au marché public. Donc ça veut dire que là, ça va être énorme, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui candidatent, qui répondent aux appels d'offres publics. Alors ça, c'est assez génial, cette loi, parce que là, elle ne dit pas, bah, écoutez, attendez, vous aurez une amende, parce que les gens, ils préfèrent payer, on l'a vu pour le handicap, ils payent, mais ils n'ont pas de handicapés. Donc là, ils paieront, mais ils continueront à discriminer les femmes. Donc là, ça sera, bah, si vous voulez soumissionner au marché public, il vous faudra un diagnostic égalité, suivi évidemment d'un plan d'action sur 3 ans avec des indicateurs de suivi de chaque action. Et tous les ans, quand ils recandidateront aux soumissions publiques, ils devront monter patte blanche. Ben voilà, l'année dernière, il y avait ça dans le plan d'action. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà comment évoluent les indicateurs d'égalité. Alors ça, c'est un progrès, si vous voulez, qui peut, si effectivement il est appliqué, ça peut vraiment faire évoluer les choses. Parce qu'il faudra faire un diagnostic au début. Alors, vous savez que dans la loi, on a les risques psychosociaux aujourd'hui qui sont obligatoires. C'est rentré dans le code de prévention des risques. Et lorsque l'on fait une approche sécurité, on doit identifier, vous savez, dans le document unique en matière de sécurité, tout ce qui est risqué. Et ont été intégrés les risques psychosociaux. Harcèlement, stress, et on peut rajouter, alors il y a l'épuisement professionnel, et dans certaines entreprises, ils ont rajouté l'inégalité de traitement dans les risques psychosociaux. Bon, alors déjà, ces entreprises sont en avance, ça voudrait, et elles ont fait, par voie de conséquence, un diagnostic. Ben là, ça voudrait dire, bon, on sort ça de l'histoire de la prévention des risques, et on le met en tant que tel en disant, voilà, vous voulez soumissionner à un marché public, eh bien, vous devez avoir fait un diagnostic égalité de traitement. Alors, bien sûr, on trouvera, les femmes n'ont pas le même salaire que les hommes. Bon, très bien, ok, on le sait. Hein. Qu'est-ce que vous proposez? Vous mettez un échéancier de combien, quoi? Déjà, peut-être que les arriérés, on ne va pas y toucher trop, parce que sinon, l'écart va mettre en danger l'entreprise. Mais ça veut dire que dans ce qui va arriver maintenant, demain, eh bien, on va faire en sorte que pour les jeunes. déjà, bon, enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais sachez-le donc, madame qui est maire, que vous aurez la possibilité de demander patte blanche aux entreprises qui vont soumissionner à vos offres. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pour nous, chercheurs, on a hâte de voir ce que ça peut donner, parce qu'il va y avoir de la demande. Alors, vous savez, il peut y avoir les demandes, j'allais dire, par obligation. Hein. Bon, ben voilà, oui, oui, il faut faire un diagnostic. Mais si ça s'arrête là, ça ira pas loin. Si on dit tous les ans, vous devez nous montrer qu'effectivement, vous avez été dans le sens de l'amélioration de l'égalité, là, ça peut petit à petit arranger et aller vers une évolution attendue. Alors ça, c'est sur le plan professionnel. Alors, il n'y a pas grand-chose sur le plan professionnel, mais ça, c'est énorme, parce que ça, ça présuppose plein d'éléments possibles. Alors ensuite, on est sur le congé parental pour les hommes. Voilà, deuxième élément de la loi, congé parental pour les hommes comme pour les femmes. On donnera 6 mois de plus de congé parental si c'est l'autre conjoint qui les prend. Puisque là, si vous voulez, il était de 3 ans ce congé parental. Donc, quand la loi a été votée, on avait dit, ben, on fera 3 ans et demi sous condition que les 6 mois supplémentaires soient faits par l'autre conjoint, c'est-à-dire par l'homme, puisque les 3 ans, c'était la femme qui le prenait. Donc là, dans le cadre des restrictions budgétaires pour diminuer la dette de l'État, il a été voté la diminution du congé parental à 2 ans et demi au lieu de 3, mais les 6 mois de plus pour l'homme sont restés dans la loi, puisqu'ils avaient été ratifiés par le Sénat. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, bon, si on veut les 3 ans, il faudra que les derniers 6 mois, ce soit le père, finalement, qui le fasse. Alors, bon, il y a des tas d'associations de défense des droits des familles, comme pour l'histoire du genre à l'école, qui n'ont rien compris, qui sont montés au filet en disant « Oui, mais alors ça, c'est dégueulasse, parce que, en fait, les hommes ne le prendront pas. » Donc, ça veut dire qu'on pose déjà comme une hypothèse vérifiée que les hommes n'évolueront jamais. Ils ne prendront pas ces 6 mois, donc en fait, on a réduit de 3 ans à 2 ans et demi. Et pourquoi ils ne le prendraient pas? Vous l'avez dit, les jeunes pères sont en train d'évoluer. On ne sait pas, cette génération Y qui arrive, qui équilibre le temps de vie au travail par rapport au temps de vie familial, comment ces jeunes pères vont évoluer? Peut-être qu'ils vont le prendre. Et peut-être que le fait, justement, que ce plus 3 ans ferme pour la femme, mais 2 ans et demi plus 6 mois pour l'homme, et ils vont peut-être en profiter pour vivre une expérience unique de papa éducateur. Et peut-être que ça fera évoluer aussi les fameux stéréotypes de genre dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est aussi une chose intéressante dans cette loi. Autre élément qui a été donc voté, c'est les impayés, une garantie contre les impayés de pension alimentaire. Alors même quand les sommes sont petites, nous on a vu au CIDF, même quand les sommes sont petites, genre 100 euros de pension alimentaire, eh bien les pères essayent d'éviter de les payer. Elles ont toujours des arguments. Donc là, il y aura une saisie directe sur les prestations familiales des mauvais payeurs lorsque la garde est alternée. Par contre, si la garde n'est pas alternée, c'est que la mère qui a la garde, comment faire pour faire payer l'homme, ça n'a pas été ratifié par le Sénat. Il était question, si vous voulez, dans le projet de loi, de demander à ce qu'il y ait une saisie sur salaire à la source, ça n'a pas été ratifié par le Sénat. Mais enfin, là, on est sur la garde alternée qui représente la majorité aujourd'hui des gardes lorsqu'il y a divorce. Et donc là, on va saisir sur prestations familiales des mauvais payeurs. Alors ensuite, la loi qui a été ratifiée va donner une garantie minimale pour les mères isolées contre les impayés de pension alimentaire. La loi va leur donner, l'État va leur donner 90 euros par mois par enfant. Alors qu'avant, bah, si elle n'avait pas ses pensions alimentaires, elle n'avait rien. Donc là, en attendant de régulariser la situation, la mère pourra toucher 90 euros par enfant de la part de l'État. Ensuite, il y a l'axe de protection des femmes contre les violences. Donc il y a un renforcement de l'ordonnance de protection. Aujourd'hui, les femmes sont protégées 4 mois, c'est augmenté à 6 mois, donc elles seront protégées vis-à-vis de leur conjoint violent. Éviction du conjoint violent du domicile, retrait partiel ou total de l'autorité parentale pour le conjoint violent, et donc une ligne d'écoute, le 3919, gratuite pour chacun des membres d'un couple en cas de harcèlement. Annulation des mariages forcés, religieux, à la demande des victimes. Interdiction des concours minimis au moins de 13 ans, avec amende extrêmement importante qui va de 3 000 à 10 000 euros si la loi n'est pas respectée. Concernant donc l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, on va supprimer la notion de situation de détresse pour demander une IVG. On ne demandera absolument plus pour quelle motivation les femmes veulent une IVG. Et enfin, sur le plan des publicités dans les médias, il y aura une analyse des stéréotypes sexistes et des images dégradantes des femmes dans chacune des publicités qui vont être diffusées à la télévision notamment. Alors ça, j'allais dire, on ne sait pas comment ça va se mettre en place. Pour l'instant, ça a été ratifié. Alors, concernant la parité maintenant, donc il y a un renforcement des sanctions financières pour les partis qui ne respecteront pas les objectifs de parité. Alors ça, ça va être appliqué à partir de 2017. Donc on se donne le temps de régulariser les choses, sinon tous les partis vont devoir payer. Ça va être comme les salaires, on va dire, oh là, c'est impossible, on ne peut pas le faire, on va déposer le bilan. Alors sur le plan du sport maintenant, la loi propose une introduction progressive du principe de parité dans les instances de gouvernance des fédérations sportives agréées. Donc elles devront donner des délais, c'est elles qui vont réfléchir à cette question-là par fédération sportive, et devront donc donner au ministre les délais à partir desquels ils vont estimer qu'ils vont faire rentrer des femmes. Alors vous savez que ça a commencé puisqu'on a un arbitre femme en football, c'était une première. On commence à avoir des femmes qui rentrent, si vous voulez, déjà dans des métiers qui sont stratégiques. Bon, dans les instances, ben, petit à petit, on va les faire rentrer. Et enfin, extension de la parité aux services publics, aux collectivités territoriales. Chère madame, dites-vous bien que vous allez pouvoir jouer dans ce sens-là dans les prochaines décisions de recrutement. Voilà, donc c'est ce qui a été ratifié. Donc il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans cette dernière loi. Si les pouvoirs publics la font respecter, on pourra peut-être espérer faire avancer les choses.
C'était un extrait de la conférence débat organisée sur la péniche à Vienne par Couleur FM en partenariat avec la région Rhône-Alpes, et ce, dans le cadre de la 4e édition de la quinzaine de l'égalité femmes-hommes. Si vous souhaitez écouter l'intégralité de cette conférence, rendez-vous sur le site www.couleurfm.com.
Et voilà Véronique, nous arrivons au terme de notre émission. Nous espérons que vous aurez eu autant de plaisir à nous écouter que nous avons eu de plaisir à faire cette émission. Nous nous retrouverons le mois prochain avec des invités pour un nouveau sujet, et ce sujet sera les violences faites aux femmes, un sujet d'actualité dont vous entendrez tout au long du mois de novembre une campagne de sensibilisation à ce sujet.
Pour plus d'informations sur le droit des femmes, http://femmes.gouv.fr. Et puis, il y a un S à femme. Retenez cette date, la 10e édition du festival Brisons le silence, qui aura lieu à Lyon du 19 au 29 novembre 2014. Elle est organisée par l'association Filaction, qui a également un site internet www.filaction.org. Une petite dernière chose, si vous souhaitez intervenir dans cette émission, nous apporter votre témoignage, eh ben, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail à toutfeutoutflamme.
Ah non, pas tout feu, tout flamme, donc, ça brûle, la couleur FM, ça brûle.
Allez, on recommence.
Allez, Véronique.
C'est toutfeutoutflamme@couleurfm.fr. Vous retrouvez toutes les indications sur notre site également, puisque nous allons créer une rubrique, une émission qui s'appelle Tout feu, tout flamme, où vous pourrez télécharger cette émission, enfin écouter cette émission. On mettra toutes les pauses musicales, voilà. On vous mettra toutes les informations.
Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous contacter, à venir parler à nos micros. Ça nous intéresse et ça intéresse bien du monde, je pense.
Voilà. On prend tous les témoignages des hommes, des femmes aussi.
Hein, et voilà. Puis on vous donnera aussi des adresses, des numéros de téléphone, des gens qui seront là pour vous donner des conseils, des renseignements sur ces sujets.
Et puis si vous avez envie aussi que l'on traite un sujet, eh bien pourquoi pas, vous pouvez nous le proposer et puis nous ferons un petit comité de réaction et on verra, voilà. Des rédactions et on verra si c'est possible.
Des suggestions.
Voilà, on veut plein de suggestions. C'est votre magazine, mesdames. Et puis messieurs, vous n'êtes pas exclus non plus.
Bien sûr.
Vous venez quand vous voulez. Voilà, alors on va terminer sur une chanson. Alors certains vont sourire, hein, puisque nous avons choisi Julio Iglesias. Alors certains vont dire oui, mais alors comme mec misogyne, il n'y a pas pire.
Nous, on adore la provocation avec Véronique, voilà. C'est pour ça qu'on le fait.
Donc c'est le choix, je précise, de Valérie.
Voilà, ça c'est sympa, merci. Mais voilà. J'assume complètement.
Voilà, t'assumes.
Je trouvais très drôle de terminer l'émission par cette chanson-là.
Voilà. On va, de toute façon, tout au long de ces émissions qu'on va faire ensemble, chacune assume nos choix.
Voilà. Un brin déjanté, certes.
Un brin déjanté, on n'a pas tout à fait des fois les mêmes goûts, des fois on se rejoint. Et c'est justement cette diversité qui peut rendre cette émission amusante. Alors on vous souhaite une très bonne continuation et puis nous on vous dit
au revoir
et à très bientôt.
À bientôt.
Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous des âmes. Vous les anges, adorables, et nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure, on vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable. Dès que notre bouche sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On les fous des jalousies et ça vous flatte. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous désarment. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable. Pauvre diable.